Donc, après cette riche matinée d'échanges et voilà, c'est parti. On va continuer donc sur une table ronde pour essayer de continuer donc dans la lancée du cycle de vie du retentissement psychologique. Donc avec la table ronde de cet après-midi qui va être plus spécifiquement sur le traitement de l'évaluation, avec cette question: qui y répond, comment on y répond, comment est traité et utiliser la réponse. Pour ce faire, donc, du coup, nous avons une table ronde constituée du coup du docteur donc, Thomas Perrault, médecin légiste au CHU de Bordeaux, expert près de la cour d'appel de Bordeaux, docteur Raphaël Valert, psychiatre, praticienne hospitalière, service de psychiatrie, Hôtel Dieu, Célia Zaffaroni, psychologue clinicienne, service de médecine légale, UMJ du CHRU de Nancy. Maître Sophie Monani, avocate spécialisée dans la défense des victimes, enfants, adultes, dans le cadre pénal et civil. Éric Legrand, avocat général sur la cour d'appel de Bordeaux. Jean-François Assal, vice-président chargé de l'instruction, doyen des juges d'instruction, directeur du pôle pénal, tribunal judiciaire de Colmar. Et Stéphane Rémy, président de la cour d'assises de Gironde. Sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Perrault.
Bien, merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Ah, ok. C'est bon. Donc, je disais merci de m'avoir convié à cette table ronde sur un sujet particulièrement intéressant et particulièrement non consensuel, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Au sujet du retentissement psychotraumatique des violences sur les victimes que nous sommes amenés à évaluer dans les UMJ. Donc je vais essayer de faire passer quelques messages qui moi me tiennent à cœur en tant que médecin légiste. Après, bien sûr, le but sera d'en discuter ensemble. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont déjà été dites ce matin, donc je vais revenir sur certaines choses, mais insister sur d'autres qui n'ont peut-être pas été abordées suffisamment longtemps, en tout cas. Commencer par rappeler à chacun l'inexistence de la notion d'ITT psychologique. Alors, ça, bon, je pense que ça commence à être clair et ça l'était déjà avant pour beaucoup de monde. Mais moi, ce que je recommande, c'est de parler de composantes psychologiques d'une ITT. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que l'ITT, c'est quelque chose de global, qu'il y a une part somatique, une part psychologique, mais il ne faut surtout pas segmenter l'ITT en ITT somatique et ITT psychologique, même si on peut avoir l'impression que créer une ITT psychologique, c'est apporter une réponse plus précise à des problématiques de violence verbale ou de harcèlement, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout adapté, dans la mesure où, d'une part, ça ne répond pas à la définition du code pénal, hein, qui est quand même celle avec laquelle on doit travailler, même si elle est loin d'être parfaite, qui crée, à mon sens, beaucoup de confusion, puisque si on se met à calculer une durée d'ITT somatique et une durée d'ITT psychologique, je ne sais pas trop ce que le magistrat peut en faire. D'ailleurs, ce serait intéressant de leur poser la question, parce que ça doit leur arriver d'avoir deux durées différentes, mais est-ce qu'ils les additionnent, est-ce qu'ils en utilisent une des deux seulement, enfin bon, voilà, donc... À mon sens, c'est beaucoup trop, ça crée beaucoup trop de confusion. Et on se doit d'être vraiment le plus descriptif possible en ce qui concerne la part somatique du retentissement et la part psychologique. Voilà. Je dis pas qu'il y a un des deux aspects qui est plus ou moins important que l'autre, mais en tout cas, il faut se garder de séparer les choses artificiellement. Donc, ceci étant dit... L'ITT psychologique, c'est parfois compliqué parce que en médecine légale, on a besoin de choses les plus objectives possibles auxquelles se raccrocher. Nous, on est habitué à décrire des blessures, des hématomes, des fractures, je ne sais, enfin, que sais-je. Et tout ce qui est psychologique, par nature, ça apporte une part de subjectivité. Donc, en tant que médecin, moi, je me suis intéressé à ça. Alors, bon, y a rien de révolutionnaire, mais j'avais fait il y a quelques années une étude qui consistait à étudier les critères de l'état de stress aigu du DSM-5 utilisé par les psychiatres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des critères qui sont quand même suffisamment robustes, qui sont validés par la communauté psychiatrique. Enfin, je vais poser la question à mes collègues psychiatres, mais qui sont validées par à peu près tout le monde, qui sont consensuelles et qui sont reproductibles si on les recherche entre deux évaluateurs qui soient différents. Et en fait, ça permet d'une part de débrouiller une situation par quelqu'un qui n'est pas psychiatre, et c'est le cas de peu de médecins légistes, moi le premier, hein, je suis médecin généraliste de formation, donc le psychotraumatisme initialement, ce n'était pas forcément mon domaine, et je pense qu'avec ça, on peut réussir quand même à débrouiller pas mal de situations. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable par le médecin légiste, ou par le médecin tout court même. Après, là où les psychologues ont une plus-value énorme à mon sens, c'est qu'elles réussissent à intégrer toute cette symptomatologie que nous on trouve assez facilement dans l'histoire d'une personne, dans la façon dont elle vit les choses, peut-être l'intensité que peuvent prendre certains symptômes, chose auxquelles nous on est moins habitués, donc c'est un des gros avantages à mon sens de travailler avec les psychologues dans les UMJ. Et ça permet en fait d'affiner l'évaluation que nous on fait et de lui donner une certaine intensité qui peut être convertie en nombre de jours d'ITT. Voilà. Après, il y a des débats sur est-ce que une ITT psychologique, ça peut être supérieur à 8 jours ou pas. Voilà, ça, c'est un débat, je n'ai toujours pas la réponse, mais on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. De toute façon, la notion d'ITT, elle est, vous l'aurez bien compris, elle est pas consensuelle, c'est pas toujours très clair, mais on fait au mieux avec ce qu'on a. Et en évaluant les éléments psychotraumatiques et en discutant avec les psychologues, je pense qu'on réussit quand même à fournir aux enquêteurs et au parquet quelque chose d'assez étayé sur les conséquences de violence vis-à-vis d'une victime. Il y a quand même des critères qui sont très fréquemment corrélés à des durées d'ITT plus longues en termes de retentissement psychotraumatique. Moi, j'ai remarqué dans mon expérience que les vécus de mort imminente, les détresses péritraumatiques assez marquées et tout ce qui est phénomène de dissociation péritraumatique, en général, c'est générateur quand même d'un tableau psychotraumatique un peu plus long qu'une victime qui présente juste quelques reviviscences et quelques cauchemars simples, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Et puis, malgré tout, il y a quand même des limites à cela. Hein. C'est-à-dire que l'ITT, c'est déjà pas simple, mais alors quand il s'agit de violences chroniques ou de harcèlement, à mon avis, ça devient complètement inadapté. Donc là, il y a deux réponses. Soit on fait au mieux, comme souvent, et puis on essaye de calculer une durée d'ITT, mais qui, à mon avis, est quelque chose d'approximatif et qui ne reflète pas du tout la gravité d'une situation. Ou alors on répond au magistrat que en fait l'ITT n'est pas évaluable face à la situation qui nous est soumise et on lui donne par contre dans ces cas-là les éléments qui lui permettront d'apprécier lui-même la gravité autrement que par une durée chiffrée d'ITT qui n'est pas quelque chose de forcément faisable. Voilà. Alors à ce sujet, bon, ce matin il y a eu un débat notamment avec des avocats sur le fait qu'il faille tout le temps ou en tout cas essayer de mettre une durée d'ITT même si on ne pouvait pas. Parce que si on ne mettait pas de durée d'ITT, c'était assimilé à finalement zéro jour et que ça desservait énormément les victimes. Mais en fait, c'est pas parce que la notion d'ITT n'est pas appropriée à ce qu'on fait qu'on doit faire n'importe quoi et forcément essayer de donner une réponse à quelque chose qui n'est pas tout simplement approprié. On peut dire que c'est pas approprié, dire pourquoi, et puis après, malheureusement, les OPJ ou le parquet font ce qu'ils peuvent, mais voilà, c'est pas à nous en tant que médecins légistes de régler en fait un problème juridique en nous expliquant que malheureusement, si on le fait pas, ça va porter préjudice à une victime. Voilà, parce qu'effectivement, quand on se met du côté de la victime, on aimerait pouvoir leur mettre des durées d'ITT, même si c'est pas adapté, mais il faut rester neutre quand on est expert et on ne peut pas mettre un ou deux jours d'ITT pour faire plaisir, entre guillemets, alors que finalement on n'a pas les arguments pour défendre cette position. Donc moi je pense que si l'ITT c'est pas approprié, il faut en parler avec des législateurs, je ne sais pas, des députés, des gens qui peuvent faire évoluer la loi éventuellement, la supprimer si on considère que l'ITT c'est pas utilisable en tant que tel. mais pas demander aux gens qui sont chargés de l'évaluer de bricoler comme ça a pu être suggéré. Ensuite, je voudrais souligner quelques différences qui me paraissent essentielles parce que j'ai constaté ce matin encore que c'était source de confusion, des différences dans le raisonnement médico-légal à mener lorsqu'on évalue une victime dans une UMJ et lorsqu'on évalue une victime à distance dans le cadre d'une expertise. Alors effectivement, là, le thème de cette journée, de cette table ronde, c'est l'évaluation à l'UMJ. Hein. On parle d'ITT, on parle de quelque chose qui est arrivé précocement, on parle de réquisition par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Mais malgré tout, si on met pas les choses en miroir avec ce qui se passe à distance, je pense qu'on ne comprend pas forcément bien certaines choses. Alors je m'explique. À l'UMJ, c'est un temps précoce. Hein. La plupart du temps, on reçoit des victimes qui ont été victimes de violences récemment, dans les premiers jours. C'est surtout le temps de l'enquête pénale. C'est-à-dire qu'on est dans une enquête de flagrance, une enquête préliminaire éventuellement. Mais le but de notre évaluation de l'ITT, c'est d'orienter quand même les enquêteurs et la justice sur la gravité des faits et les poursuites qu'ils doivent mettre en œuvre les plus adaptées à cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la victime et qu'on ne peut pas commencer à la prendre en charge sur le plan thérapeutique. On peut faire les choses avec beaucoup de bienveillance, l'encadrer, lui donner des conseils. Enfin voilà, on peut amorcer quelque chose, mais le but premier, c'est vraiment d'orienter les poursuites à l'encontre du mis en cause. Donc temps précoce, temps pénal, c'est bien sûr le temps d'un psychotraumatisme aigu, donc on se référera plutôt à mon avis pour une évaluation, comme je disais, à des critères relevant de l'état de stress aigu et non pas à l'état de stress post-traumatique comme malheureusement on le voit souvent. Et puis voilà, et notre évaluation, quand on a fait tout ça, elle doit permettre de comprendre la gravité des choses, éventuellement de comprendre pourquoi telle victime, elle réagit de telle manière à la situation dont elle est victime, mais on ne doit pas parler, parce que c'est pareil, c'est une confusion à mon avis majeure, d'état antérieur, qui consisterait en fait à prendre en compte certains éléments qui lui seraient arrivés avant dans sa vie, pour les retrancher d'une certaine manière à la durée de l'ITT qu'on va proposer. Alors ça, je vais en rediscuter après. Mais à l'UMJ, il faut vraiment, à mon avis, être assez basique, hein, c'est-à-dire décrire et puis convertir sous forme de nombre de jours d'ITT si on peut le faire. On peut le faire quand même très souvent, hein, rassurez-vous. Après, combien ? Une minute, d'accord. Lors de l'expertise, ça c'est quelque chose qui est fait en général un an, deux ans, longtemps après. Ça correspond à un temps qui est plus le temps pénal, en général, c'est des intérêts civils. Donc ça intervient après l'enquête initiale, ça intervient souvent après la condamnation du mis en cause, si toutefois il est vraiment auteur des victimes. Ça permet d'évaluer des séquelles, puisqu'en général, la victime, avant l'expertise, elle aura été prise en charge, il y aura eu des soins. Et nous, quand on la voit, si toutefois il y a des signes psychotraumatiques qui persistent, c'est fixé à l'état séquellaire. Et c'est là où, contrairement à l'évaluation qu'on fait à l'UMJ, on doit prendre en compte un état antérieur de cette victime. C'est-à-dire que si les blessures s'inscrivent dans un contexte déjà compliqué et qu'elle avait déjà fait l'objet de suivi, de fragilité ou que sais-je, là, on doit le prendre en compte pour le retrancher des séquelles qu'on retiendra suite à l'événement en question. Voilà. Bon, je ne vais pas donner plus d'exemples parce que je crois que j'ai consommé mon temps de parole, mais je vais laisser la parole à ma consoeur psychiatre.
Oui, merci.